RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, on commence avec la politique française. Les candidats socialistes aux législatives soutenant Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle n'auront plus l'investiture du Parti socialiste. C'est ce qu'a annoncé hier Christophe Borgel, secrétaire national aux élections. L'ancien ministre de l'économie, candidat à l'élection présidentielle après avoir fondé son parti En Marche, assure avoir l'appui de plusieurs députés socialistes, dont Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche, ou encore Stéphane Travert, Corinne Erhel et Christophe Castaner. Tous revendiquent la double appartenance socialiste et En Marche. C'est sans que la direction du Parti socialiste n'ait pour l'instant décidé de leur retirer l'investiture pour les élections législatives. De son côté, Gérard Filoche, lui, n'est pas content. La haute autorité a décidé hier de ne pas retenir sa candidature à la primaire de la gauche. Par conséquent, le candidat déçu a confirmé sa décision de se lancer dans un double recours. Après consultation de mon avocate, il dit « Je fais un double recours au niveau des parrainages et sinon pour accéder directement à la primaire en dehors du PS ». Gérard Filoche a lancé un appel aux dons sur Twitter pour financer ce recours. Samia, une franco-algérienne de 23 ans, a été déférée vendredi devant le parquet antiterroriste avant d'être mise en examen dans la soirée dans l'enquête sur la tentative d'attentat dans le centre de Paris en septembre dernier. Une Peugeot 607 remplie de bonbonnes de gaz avait alors été découverte dans le quartier Saint-Michel près de Notre-Dame dans la nuit du 3 au 4 septembre. La jeune femme avait été interpellée le 13 décembre à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Jusqu'ici inconnue des services de renseignement, des documents retrouvés dans son ordinateur et son téléphone portable attestent d'une attirance pour Daesh. La jeune femme a aussi été en contact via la messagerie Telegram avec Rachid Kassim, important recruteur et propagandiste français de l'organisation terroriste. Partout en France se sont tenus hier samedi des rassemblements à l'appel de plusieurs associations en soutien aux civils syriens piégés dans le dernier quartier rebelle d'Alep qui est actuellement encore assiégé par le régime du président Bachar el-Assad et ses alliés. Toujours en France, les chauffeurs de VTC en colère contre les plateformes de réservation ont appelé hier, après une trêve de 24 heures, à relancer les blocages en région parisienne malgré l'accord d'Uber pour de futures négociations tandis que le gouvernement, lui, demandait la fin du mouvement. Plusieurs dizaines d'entre eux ont mis en place un barrage filtrant à bord de l'aéroport d'Orly, empêchant leurs collègues non grévistes d'accéder aux terminaux. C'est ce qu'a constaté hier un journaliste de l'agence France Presse. Le dispositif de circulation alternée mis en place vendredi et samedi ne sera pas reconduit aujourd'hui et demain. La circulation alternée avait été instaurée à Paris et dans 22 communes de la Petite Couronne en raison de la pollution particules fines et au dioxyde d'azote. Seuls les véhicules dont le numéro de la plaque d'immatriculation est impair pouvaient circuler hier samedi, ainsi que ceux qui font du covoiturage ou bénéficient d'une dérogation. Les transports étaient également gratuits. En sport, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, entre 2005 et 2009, Papé Diouf, a été mis en examen pour abus de biens sociaux vendredi dans le cadre de l'enquête sur la gestion de l'OM, liée en particulier à des transferts présumés frauduleux. C'est ce qu'il a annoncé lui-même hier samedi. Plusieurs faits sont reprochés à Papé Diouf par le juge d'instruction, mais rien qui ne concerne les transferts douteux à proprement parler, selon le principal intéressé. À l'étranger, le président américain Barack Obama a affirmé vendredi, lors de sa dernière conférence de presse de l'année, que la Russie est un pays plus petit que les États-Unis, un pays plus faible. Leur économie ne produit rien, que quiconque veuille acheter, mis à part du pétrole, du gaz et des armes, ils n'innovent pas. Cette déclaration intervenait après la révélation que la candidate démocrate Hillary Clinton avait fait l'objet d'une cyberattaque de la part des services russes. Merci d'avoir suivi ce flash poursuite du programme sur RVE.
La météo de votre région sur RVE.
RVE 103.7, merci pour l'info. Nous la retrouverons tout à l'heure à 10h. La météo pour ce jour, oh c'est facile. Avec un ciel qui, oh là là, restera nuageux tout au long de cette journée. Ça continuera demain d'ailleurs. Avec des températures de 2 à 3 degrés actuellement, on atteindra les 5 degrés, voire les 6 cet après-midi avec une forte couverture nuageuse.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Bon alors, à Maltais, cette soirée au Téléthon sur Bullion.
Ah bah c'était super, franchement.
un peu moins. Voilà, il y a eu Kevin Mayer, bien sûr, au Décathlon, qui a réussi quelque chose d'extraordinaire à Rio en terminant en médaille d'argent et en pulvérisant le record de France de Christian Plaza, qui avait 26 ans. Voilà, il y a eu des très belles. Mais c'est vrai que Teddy Riner, il y a toujours un petit faible pour lui, même si je pense qu'il y a d'autres Français qui pourraient mériter ce titre. Hein, voilà. Après, Usain Bolt, c'est un peu la même chose. Voilà, il y a d'autres sportifs qui ont réalisé des très très grosses performances dans tous les sports confondus. Mais Usain Bolt, voilà, c'est les Jeux Olympiques, c'est le 100 mètres, toujours la discipline phare. Et puis c'est vrai que là, il rentre quand même définitivement dans l'histoire au niveau de l'athlétisme avec sa 9e médaille olympique, quoi.
Très bien, alors on va me donner des consignes dans le casque. Est-ce qu'on va lancer les interviews sur le Téléthon? On reviendra sur la rétro sport après. Et puis bah, j'espère que vous pourrez réécouter ça en podcast. Sinon on va réenregistrer l'émission. C'est pas grave, on est là jusqu'à 18h s'il le faut. Allez, on va y aller. Donc on peut y aller, c'est bon pour, donc...
Ah ouais, c'était super, franchement il y a eu beaucoup de monde. Et ça nous a fait vraiment plaisir de voir aussi que les personnes étaient réceptives et chantaient avec nous. Voilà, donc ça fait vraiment très plaisir de voir ça.
Est-ce qu'on y pense quand on est sur scène, qu'on chante pour une soirée un peu particulière?
Oui, forcément, ça donne une énergie particulière et puis ça nous fait vraiment plaisir de voilà, que notre voix serve aussi à quelque chose pour la bonne cause. Voilà, c'est réunir les gens comme ça dans un dessin vraiment purement caritatif, etc. Oui, ça, c'est particulier, mais on échangerait ça pour rien au monde, c'est vraiment chouette.
Alors vous chantez toujours tous ensemble, là, parce qu'on vous sent très complice quand même, hein. Vous connaissez parfaitement bien.
On se connaît plus ou moins, on n'a jamais forcément tous chanté ensemble, mais on se connaissait déjà avant. Et en tout cas avec Morgane, oui, on chantait déjà ensemble, mais c'était une grande première pour nous tous là de monter ensemble sur scène. Et finalement, on voit que l'alchimie fonctionne bien, alors pourquoi pas une prochaine fois remettre ça.
Il n'y a même pas eu de préparation?
Ah si, des préparations, si, voilà, si, bien sûr, il y a eu beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures passées sur les chansons pour que tout soit calé au millimètre près, pour que voilà, ça fasse un bon rendu.
Bon, la suite maintenant dans la région, c'est où?
Eh bien, la prochaine fois, ce sera à Limours pour le concert de l'Harmonie, donc samedi 19 novembre, voilà, prochain. Mmh. Voilà. Et puis après, bah, on verra bien, ce sera au fur et à mesure des calendriers de chacun pour savoir.
Eh bien, merci en tout cas, puis bravo Malte.
Bah, merci beaucoup, et puis bah, à bientôt. Ouais.
Voilà, ça c'était le 12 novembre, hein. Il faut remettre l'interview dans son contexte, Simon. C'était donc le 12 novembre, hein. Voilà. Alors on va écouter aussi un autre passionné de sport qui était venu chanter et puis faire du théâtre. Eh bien c'est Philippe, on y va. Et ensuite on aura Tony Galopin, donc le parrain de cette manifestation sur le Téléthon. On commence avec Philippe qui était aussi parti donc de la troupe comme chanteur et comme comédien. On y va. Bon, alors il n'y a pas Philippe, c'est pas bien grave. Donc,
Galopin, Tony, vous êtes venu participer à ce Téléthon sur Bullion. En quelque sorte, vous êtes le parrain sur Bullion de cette édition 2016.
Oui, bah, c'est vrai que c'était une belle occasion. Monsieur Violent m'avait invité déjà depuis 2 ans, mais je ne pouvais pas être présent. Donc voilà, là, ça s'est présenté. Et, c'est avec une certaine joie que voilà, je peux être présent ce soir.
Oui, c'est facile pour vous d'être comme ça, présent, de répondre à des sollicitations, même en période hivernale où on est censé être un peu en repos et puis en congé.
Oui, mais c'est vrai que cette année, je suis assez disponible. En passé, je me souviens, j'étais avec l'équipe de France, on était déjà en stage dans les Alpes. Donc, d'habitude, j'ai du mal à être présent, mais quand j'ai l'opportunité et le temps de venir, c'est avec plaisir.
Oui, on y pense quand on a la chance d'être champion cycliste, hein, de vivre de sa passion, de son sport, bah, de donner un peu de bonheur à tous ces jeunes, hein, qui malheureusement, eux, n'ont pas été gâtés par la vie.
Oui, bien sûr, j'essaye au maximum de partager et aider. C'est vrai que tout ce qu'on peut faire, c'est déjà bien. Donc voilà, chaque petite pierre apportée fait quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir sur ces événements.
Donc vous avez couru, mais pas à vélo?
J'ai fait un peu de course à pied, ouais, on a fait quelques activités, c'était sympa, surtout avec les enfants, on voit beaucoup de joie et ça fait du bien pour le moral.
Comment le public a donc réagi? Là, on vous connaît maintenant dans la région de Tony, hein, toujours très donc réceptif, beaucoup de questions, beaucoup de sollicitations.
Ouais, bah, c'est vrai que bon là il y a des connaisseurs de cyclisme, ouais, mais pas que non plus, des enfants, des gens qui posent des questions, donc c'est intéressant d'échanger, de donner son voilà son ses connaissances, son savoir, et puis voilà, on échange et c'est vraiment des moments sympathiques.
Oui, parce que tout le monde vous connaît, hein, vous avez pris une dimension depuis votre maillot jaune et puis votre victoire d'étape sur le Tour en 2014.
C'est vrai que ce maillot jaune, ce Tour 2014 en lui-même, c'est vrai que ça a passé l'aspect, je veux dire, il y a le monde cyclisme et puis après, voilà, il y a la vie en général. Et c'est vrai que le Tour de France dépasse ce niveau sportif et ça fait passer dans une autre dimension. Et bah, c'est toujours agréable, surtout voilà, quand on est à la maison ici, de venir avec les supporters ou vraiment avec les gens proches, c'est un plaisir.
Alors, comment on se prépare maintenant cette nouvelle saison ? Quelques vacances et puis après on rentre carrément dans le vif du sujet.
Non, là c'est déjà parti, hein. Les vacances sont déjà passées, on a repris. Je pars en stage avec mon équipe mardi en Espagne, donc pour déjà presque 2 semaines de travail. Donc voilà, ça va aller très vite, juste les fêtes et puis janvier qui va passer, les courses vont reprendre fin janvier. Non, ça va très vite.
Allez, entre nous, il y a une épreuve plus particulièrement qui est cochée déjà sur le calendrier 2017, une classique, une belle victoire encore sur le Tour.
Non, mais déjà un des premiers objectifs pour moi c'est Paris-Nice, parce que déjà on part toujours près de la maison, on passe sur ces routes-là, souvent on traverse les Yvelines, les Saônes, donc c'est vraiment une course qui me tient à cœur. Ensuite il y aura les classiques flandriennes, et puis bien sûr la deuxième partie de saison ça sera le Tour de France qui est l'événement le plus important de l'année.
Alors allez encourager Tony Galopin sur les routes, hein, notamment sur la route du Tour.
Ouais, c'est toujours agréable d'être encouragé et de voir des visages familiers ou des gens qu'on nous dit des fois, bah, je viens de la maison, je viens à côté de Dourdan, de Billon, c'est toujours des moments sympas.
Merci Tony. Merci.
Voilà, sympa hein, Tony Galopin, le parrain voilà, de cette édition 2017. Voilà, hein, Simon.
Voilà, exactement, extrêmement sympathique, il a beaucoup parlé avec les enfants des écoles, beaucoup de questions lui ont été posées. Beaucoup d'admiration aussi sur ce jeune monsieur qui est vraiment extrêmement sympathique.
Alors, maintenant, je ne sais pas si on va réécouter Philippe ou si on va écouter l'interview suivante qui est José Schwartz, donc le président de la sélection de l'aéromodélisme sur Rambouillet. Ou alors, on va retrouver l'interview numéro 2, on me le dit dans le casque. Non, on y va, c'est la 4. Alors, c'est José Schwartz, donc le président de la sélection modélisme du Rambouillet, aussi très largement présent sur ce Téléthon depuis plusieurs années.
Alors, nous sommes avec José Schwartz, le président de l'MCR. José, c'est modèle réduit, une nouvelle fois présent sur le Téléthon.
Ah ben oui, comme tous les ans, depuis maintenant pas mal d'années, on tient à être présent pour cet événement qui nous tient bien à cœur.
Alors, vous avez délocalisé en quelque sorte sur la salle patente, pourquoi ?
Oui, parce que cette salle est bien adaptée pour le public finalement. Hein, et puis, on est moins excentré qu'au Racinet. C'est pour la raison pour laquelle on a pu utiliser cette salle-là. Quoi, voilà.
Alors, on va parler un peu de tous ces petits engins qu'on voit. Quel type de modèle réduit est-ce ? Essentiellement des avions ?
Alors, essentiellement des avions qui sont fabriqués la plupart en Dépron. C'est une matière très très légère. Hein, absolument tous électriques. Nous avons également des drones. Parce que bon, c'est bien la mode des drones, hein. Il y a plusieurs de nos membres qui utilisent ces petits engins, qui partent de quelques grammes à un kilo et demi à peu près. Et puis nous avons également des modèles qui sont construits spécialement pour ça. En l'occurrence, nous avons une petite boîte à pizza qui est marrante et qui vole très très bien. Donc voilà, et tout le monde s'amuse bien, quoi, finalement.
Alors, le but ce soir, c'est de venir ici s'initier. On donne la somme que l'on veut, et puis on peut faire joujou avec ces engins, en quelque sorte.
Voilà, effectivement. Alors, donc, ce que nous avons quand même des modèles qui fonctionnent en double commande, afin que l'utilisateur soit en sécurité. Et nous avons également installé un simulateur de vol qui nous permet aussi de pratiquer en toute tranquillité le modélisme, quoi, et l'aéromodélisme. Voilà.
Alors, le record à battre, c'est quoi ? Parce que c'est aussi le but du béton.
Oui, alors le record à battre chez nous, c'est de voler le plus longtemps possible, en fonction bien sûr des capacités de batterie, mais surtout, on essaie de voler je dirais, le plus longtemps possible dans la journée et dans la nuit. Voilà, on va essayer cette année de passer pratiquement toute la nuit au gymnase.
Voilà. Et ça va peut-être susciter des vocations.
Alors oui, bien sûr. Hein, j'espère que nous aurons un nombre public, et puis notamment des jeunes qui sont très friands de ce genre de, comment dirais-je, de manifestations. Donc bon, on les attend avec impatience, et puis j'espère qu'ils seront également généreux pour le Téléthon. Voilà.
Merci José, bon Téléthon.
À bientôt alors. Merci.
Voilà, ça c'était pour le président de la section de l'aéromodélisme de Rambouillet, José Schwartz. Alors, il y avait aussi une initiative intéressante, c'était les trois balles. Et oui, il y avait trois présidents de trois sports de balles différents qui se sont donc concertés, qui ont organisé une manifestation pour le Téléthon, trois sports individuels naturellement. Hein. Donc on va retrouver ensemble Laurent Tolazzi, le président de la section tennis de la Clairière, Laurent Charmois, donc pour le badminton, et puis Frédéric Sélinger pour le tennis de table. Ça leur a permis de participer au Téléthon, et puis de découvrir leur sport l'un par rapport à l'autre. Allez, je suis en compagnie des trois présidents des clubs de tennis, badminton et tennis de table, concernés par cette soirée Téléthon. Laurent Tolazzi, vous êtes à l'initiative de donc ces matchs à trois sports.
À l'initiative, j'ai pris l'initiative des contacts,
oui.
Mais en réalité, pour tout dire, c'est un de mes adhérents, un jour, oui. Qui, alors qu'on faisait un café-club comme tous les samedis matins, qui m'a dit, j'ai fait un truc super sympa dans le sud de la France, ça s'appelle tournoi à trois raquettes, oui. Et l'idée c'était de, comme ça m'a paru intéressant, de décliner à l'occasion du Téléthon.
D'accord, alors comment ça se passe?
Alors comment ça se passe? Eh bien, il y a des équipes qui sont composées de trois joueurs, donc idéalement un badiste, un pongiste et un tennisman. Mmh. Et puis ils rencontrent en poule d'autres équipes en jouant alternativement au tennis, au badminton et au tennis de table.
D'accord, ok. Et donc on s'inscrit à la somme que l'on veut, parce que c'est ça aussi le but, hein.
Alors il y avait un engagement qui était fixe, hein, qui était de 10 euros pour les adultes, parce qu'en réalité il y avait deux tournois, un tournoi à trois raquettes adultes, mais il y en avait un également en jeune qui commençait plus tôt, qui se finissait plus tôt, où l'engagement était de 5 euros seulement.
Bon, vous avez joué ou vous avez coordonné le tout ce soir-là?
Ah non, là, aujourd'hui, c'était plutôt la coordination. Là, tous les présidents, ils étaient à la manœuvre.
Ouais, parce que justement, l'autre président, donc celui du badminton Laurent, lui, il a joué. Hein. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur? Jouer au tennis de table ou au tennis quand on fait du bad?
Alors, bah, c'est des disciplines totalement différentes. Ouais, hein. On ne tient pas du tout sa raquette de la même manière. Les pongistes, ils oublient de monter sur le terrain, par exemple, alors que nous, on est dessus avec les tennismen. Donc, non, c'est une approche totalement différente. Et c'est très difficile, d'ailleurs, de mixer les sports, parce qu'on prend des habitudes dans une activité et puis pas dans l'autre. Quoi. Mais c'est sympa, c'est ludique.
C'est sympa. Donc, vous allez recommencer, vous êtes prêts à repartir l'an prochain pour que ça perdure pour le Téléthon.
Mais oui, bah, on va encore améliorer les choses. Ouais. On va avoir de plus en plus de monde. On va devoir agrandir le tennis club de la Clairière. Ça va être énorme.
Alors, Frédéric, le président du tennis de table, vous avez découvert le tennis et puis le badminton, vous regardez un poisson.
Bah, c'est super sympa comme sport, mais bon, on avait un peu l'habitude de, pendant les loisirs d'y jouer, mais là on s'aperçoit que quand on joue vraiment contre des compétiteurs, c'est un autre sport, quoi. Voilà, c'est vraiment différent.
Et vous m'avez dit off, bah, ça nous permet de nous rencontrer, de nous connaître, ce qui n'est pas le cas le restant du temps.
Oui, bah, en fin de compte, les associations, ça nous permet de nous rencontrer, on se voit très rarement, ou alors des fois, on a des contacts téléphoniques pour se prêter un peu de matériel, mais là, vraiment, on fait connaissance, et c'est vraiment quelque chose de très bien.
C'était la première participation du tennis de table sur le babine, au Téléthon.
Oui, depuis quelques années, oui. Avant, on participait il y a quelques années, mais on avait totalement arrêté.
Laurent, pareil pour le badminton, non?
Ah, pareil. Ouais. Le Téléthon, on faisait déjà, parce que le badminton est très, très... une fédération récente, on fait souvent le Téléthon. Mais là, vraiment, sur Rambouillet, comme ça, mixé avec d'autres sports, c'est vraiment une première et c'est vraiment une super idée.
Et puis, Laurent, tu as dit, vous, le Téléthon, c'est une institution ici, au tennis club de la Clairière.
Ah ben on essaye, oui. Oui, on a, je ne peux pas dire qu'on a tous essayé, mais on a décliné. Alors l'année dernière, on était en ville, avec on faisait du tennis en fauteuil, et puis on a décidé de revenir à la maison, parce que nos adhérents, ils disaient, mais nous, on est venus quand même le vendredi soir, il n'y avait rien, donc on a décidé de perpétuer en fait la tradition.
Très bien, écoutez, messieurs, bravo, merci, puis rendez-vous l'année prochaine. Merci.
Merci.
Voilà,
ça c'était pour donc les trois présidents des sports de balle concernés à l'occasion de ce Téléthon 2016. Alors on va entendre aussi maintenant quelqu'un qui était venu nous annoncer la fin de sa carrière de pilote automobile. Hein. Un autre micro, c'est Pierre Buret. Pierre Buret, il était donc il présentait des voitures en scène. Donc il nous explique sa motivation pour venir participer donc à ce Téléthon 2016 sur Bullion.
Allez, avec notre ami Pierre Muret, donc, qui est venu participer à une démonstration de voiture ancienne dans le cadre du Téléthon sur Bullion. Pierre, bonjour. Finalement, vous ne pensez pas que vous vous trouvez ici sur Bullion ?
Nous sommes à Bullion aussi. Et alors donc, nous sommes à Bullion à l'initiative d'Alain Mata, qui est un habitant de Bullion, un artiste et grand fanatique de voitures de course et voitures de collection, et qui nous a gentiment invités au Téléthon, et l'invitation a été acceptée.
Voilà. Donc, ça permet de voir des modèles qui font rêver, quoi. C'est l'histoire de l'automobile depuis des années et des années.
Oui, alors il y a un très bel assortiment de voitures, avec notamment plusieurs avant-guerre, des voitures d'après-guerre avec la grosse calandre et les gros phares, et des voitures plus modernes, donc il y en a pour tous les goûts.
Voilà, alors le but c'est de venir essayer ces modèles et de donner une certaine somme, hein, parce que c'est pour le Téléthon.
C'est pour le Téléthon, alors le but c'est 5 euros le petit tour dans la région de Bullion, et tout le monde participe à une bonne action comme voilà. Ça.
Combien de kilomètres dans cette voiture on fait
Le tour fait 7 kilomètres environ autour de Bullion. Voilà.
En tout cas, ce sont des modèles qui font rêver. Ça coûte combien tous ces modèles? Parce qu'il faut les briquer, les entretenir régulièrement.
Alors, on dirait qu'une voiture de collection n'a... Bon, le prix importe peu, mais les voitures qui sont présentées là, je dirais que ça va de 50 000 euros à 10 000 euros. Voilà.
Et les gens, c'est très réceptif. Il y a eu beaucoup de jeunes, des anciens dans ces voitures.
Alors c'est plutôt quand même des gens un petit peu arrivés dans la vie. Il y a quand même le mouvement Young Timer qui permet aux jeunes d'acheter par exemple une Golf GTI, une 205, des voitures qui sont quand même relativement abordables.
Et puis on remet ça pour Pont-Évrard dès le lendemain.
Alors nous remettons ça demain à Pont-Évrard avec une grande partie des voitures qui sont ici à Bullion et d'autres voitures également qui sont amenées par François-Xavier Cosson qui s'occupe de ça à Pont-Évrard.
Très bien, merci Pierre.
Merci, à bientôt.
Voilà, je sais que ça avait bien marché aussi, donc le lendemain, à Pont-Évrard, oui. Alors, ça, on a quitté Bullion, on s'est rendu après sur Rambouillet. On a rencontré tout simplement le maire de Rambouillet, monsieur Marc Robert, qui faisait un premier bilan de ce Téléthon donc 2016, et puis qui surtout donc incitait les gens à se rendre à la lanterne.
Allez, avec monsieur le maire de Rambouillet, Marc Robert, la fête est belle à travers ce Téléthon.
Oui, alors elle l'est toujours, naturellement, puisque c'est à Rambouillet. Non, mais là, dans le Rambouillet, c'est le territoire aujourd'hui qui est investi dans le Téléthon, encore une fois, avec, vous l'avez vu, partout dans Rambouillet, des bénévoles, et ici à la salle Patenôtre, naturellement. Donc, venez à la salle Patenôtre, il y a effectivement plusieurs associations qui sont présentes. Ça vaut pour toute la ville, et pendant tout cet après-midi, depuis hier soir, l'objectif, tu l'as compris, c'est effectivement permettre de réunir le maximum de fonds. On a un record à battre, je crois qu'il était de combien 16 000, presque 17 000 euros l'année dernière. Donc allez, Rambolitain, il vous reste encore quelques instants pour venir apporter naturellement, je vois rien. Voilà. Alors un défi important, qu'on me rappelle, 18h30 autour de la lanterne, une chaîne humaine, c'est l'objectif. Je crois d'ailleurs que la télévision sera présente, me semble-t-il. Donc c'est important pour le territoire, pour Rambouillet, pour le territoire, que le maximum de Rambouillet viennent à 18h30 à la lanterne. On va faire une chaîne humaine exceptionnelle, ce qui va clôturer pour Rambouillet ce énième Téléthon et qui ouvrira, j'espère, le maximum de dons.
Oui, parce qu'il y a quand même un chiffre symbolique, ça fait 30 ans le Téléthon, Marc. Hein.
Oui. Alors ça, c'est un peu comme les Restos du Cœur. Ouais. Je dirais que c'est magnifique, parce que c'est sur la durée. On aimerait aussi, à un moment, peut-être se dire que c'est plus nécessaire, mais ça l'est. Alors, je fais le lien avec les Restos du Cœur, malheureusement c'est aussi une nécessité. Le Téléthon, c'est bien, hein, naturellement, ça permet la recherche sur un certain nombre de maladies, et heureusement que le Téléthon existe, ses bienfaits sont reconnus par tous. Écoutez, je crois que globalement le français apprécie et aime bien participer à ce genre de manifestation. C'est pour le bien-être souvent d'enfants, hein, très clairement. Donc voilà, c'est une dynamique qu'on a mis en France depuis 30 ans, je pense que ça a fait des émules un peu partout dans le monde. On continuera naturellement, bien sûr.
Merci.
Voilà, ça c'était pour donc pour Rambouillet. Ben on a fini au Perret en Yvelines. Dès le lendemain, on est allé voir notre ami Jacques Poligny quelques minutes avant de commencer notre émission du dimanche 4 décembre parce que c'était l'arrivée de la course de nuit, hein, le rigole de nuit. Et Jacques nous a tiré donc un petit peu le bilan de cette épreuve dans le cadre du Téléthon et puis il nous a presque donné donc les premiers vainqueurs.
Jacques Poligny, bonjour. Alors nous sommes à l'arrivée de l'Origol, Jacques. Ça y est, c'est fait.
Pas tout fini, c'est oui. Pas fini encore. Hein. Les premiers sont arrivés, oui, on est content. Ouais.
Alors il paraît que ça a été une nuit très sélective, hein. Beaucoup, beaucoup de casse, beaucoup d'abandon.
Oui, on a eu beaucoup d'abandon, principalement sur le 55, mais sur le 110 aussi. Donc là, le parcours était très exigeant, ça, on l'avait précisé, je l'ai précisé dans le briefing. Beaucoup sont venus sur le 55, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à trouver ce type de parcours dans notre région, et sur le 110, pareil. Donc grande surprise pour beaucoup de monde de voir qu'on peut trouver des tracés qui sont peut-être pas montagneux, mais qui apportent une belle sélectivité et de beau plaisir, parce que les coureurs qui sont arrivés là depuis dans la nuit, ou les premiers du 110 qui sont arrivés ce matin, sont ravis.
En tout cas, c'était des athlètes pourtant très bien préparés. Hein. C'est le froid qui a beaucoup joué ?
Non, parce que alors ça dépend, c'est variable. Je pense que pour certains, c'est peut-être des manques de préparation. Pour d'autres, c'est sous-estimer la difficulté de l'épreuve, la longueur de l'épreuve. Et puis après, pour d'autres, c'était la dernière grande course de l'année qualificative, donc où les coureurs étaient à la recherche de points. Donc louable à eux, mais bon, en pensant que sur une course dans région d'Yvelines, bon, c'était peut-être plus facile qu'en montagne, mais on a démontré que non.
Alors Jacques, alors où on parle, trois coureurs sont arrivés, un petit mot du vainqueur.
Alors le vainqueur, bon, il est connu de tous les spécialistes. Alors il y a deux vainqueurs quand même, puisque le vainqueur du 55, alors lui qui a pulvérisé tous les records, parce que on ne s'attendait pas du tout à ce chrono par rapport à ma temporisation. C'est Bertrand Jans. Bon, il a tout gagné dans la région depuis maintenant plusieurs mois, qui fait un chrono canon sur le 55 km, hein, puisqu'il fait 5 heures. Un peu plus de 5 heures, 5h30. J'ai plus les temps en tête, hein, parce que bon, on est un petit peu fatigué. Et puis, sur le 110, un grand champion, Nicolas Duhail, qui a, s'il y avait eu 5 km de plus, je pense qu'on aurait eu une superbe arrivée. Mais simplement pour dire que les trois premiers se tiennent dans un mouchoir de poche. C'est très très beau de voir qu'entre le premier et le deuxième, après presque 12 heures de course, il y a 4 minutes d'écart entre les deux. Donc juste un petit rappel, 110 km et donc Nicolas a bouclé les 110 km en 11h56. Donc on est très loin de chrono, à la vitesse de l'éclair, comme on peut avoir sur des Saint-Élion, sur des Écotrelles. C'est vraiment une épreuve difficile.
Oui, en tout cas, c'était le meilleur hommage qu'on pouvait rendre dans le cadre du Téléthon. Hein.
Je pense, oui. Donc ça, c'est un très bel hommage dans le cadre du Téléthon, un hommage à nos amis qui nous ont quittés, qui nous ont permis d'amener l'Origol où elle est aujourd'hui. Et bien sûr, aux associations que l'on soutient, puisqu'on soutient le Téléthon, on soutient Aladdin 33 et Captain Courage, donc des associations en soutien à des enfants gravement malades. Donc oui, ça nous fait plaisir. Oui.
Bon, et vous, comment êtes-vous avec toute votre équipe? Là, vous avez fait aussi votre Téléthon, Jacques?
Alors nous aussi, c'est un double Téléthon, hein, parce que les coureurs ont fait un ultra, nous on a fait un double ultra, parce que avec mon équipe, on est sur le pont depuis jeudi matin 7h. Donc on a commencé à tracer un petit peu sur les boucles, parce que 110 km, on trace, on va dire à 4 km heure quand même. Donc ça donne déjà une idée du temps nécessaire pour cela. Et puis après, il faut préparer toute l'infrastructure et toute la logistique pour accueillir 800 coureurs. Donc c'est un double marathon, mais bon, ça nous fait plaisir.
Merci Jacques, et puis bravo.
Oui, et puis donc je voudrais terminer donc un grand bravo à tous les bénévoles qui nous ont soutenus pendant tout ça. Un grand bravo à RVE aussi, donc qui a permis de suivre la course. Donc merci à vous aussi.
Voilà, Hervé, impressionnant quand même le rigole. Il y a eu beaucoup de casse cette année. Hein.
Oui. Alors d'abord, une très belle organisation. Il faut tirer un grand coup de chapeau à Jacques Poligny et à toute son équipe, parce que c'était une super organisation. de distance et un parcours très sélectif, hein, 55 km avec la victoire de Bertrand Jans qui a remporté très nombreuses victoires tout au long de l'année dans la région et spécifiquement sur les trails. Et puis Nicolas Duhaille sur le 110 km. Bon, Nicolas Duhaille, les spécialistes le connaissent, hein, il fait tout simplement partie des tout meilleurs Français. Quand c'est pas lui, c'est son frère, puisqu'ils sont deux. Et en principe, quand il se déplace sur une course, pour l'instant, moi, je les ai jamais vus sur une autre place que la première.
Alors justement, 435 partants, 271 coureurs qui ont fini, hein, ça c'était sur l'épreuve des 55 km, donc ça fait 62,3% de coureurs qui ont terminé. On l'a dit, Hervé, Bertrand Jans, donc, qui s'impose en 5h13 minutes et 1 seconde devant Loïc Fouquet, 5h26 minutes et 39 secondes. Et le troisième, c'est David Lebray, 5h49 minutes 10 secondes. Et comme on n'oublie pas les féminines, c'est Elodie Guégan qui termine la première féminine en 6h26 minutes et 1 seconde. Et naturellement, pour la grande épreuve, là, donc, l'Origol, hein, l'ultra trail de l'Origol, 110 km, 347 partants, 171 coureurs qui ont terminé, ça fait, on est en dessous des 50%,
oui, oui,
49,3, donc Nicolas Duhaille qui s'impose, hein, on l'a dit, 11h56 minutes 20 secondes devant Fabrice Arène, aussi bien connu, hein, en 12h29 secondes, et le troisième c'est Nicolas Pien, 12h16 minutes, et puis bah, c'est Fanny Kwan, donc, qui s'est imposée chez les premières féminines, en 13h18 minutes 32 secondes, Fanny Kwan qu'on va d'ailleurs pouvoir maintenant retrouver, on y va.
Allez, c'est parti avec Fanny Queen, donc la première féminine de cette Origol. Fanny, ce qui est assez sidérant, c'est que finalement vous avez l'air assez fraîche.
Ouais, j'ai le sourire, mais les gens ne me donnent pas le sourire, ni les pieds d'ailleurs.
Ouais, bon, ça s'est passé comment d'une façon générale?
Super bien.
Ouais, c'est-à-dire?
Bah, la première boucle, le parcours est génial et il y a du monde, donc ça me motive, mais en même temps il n'y a pas trop de monde, enfin ça n'a rien à voir avec la Saint-Aignan. Donc c'était génial. Et puis la deuxième, moi je viens pour ça quoi, pour être toute seule pendant 6 heures dans la forêt.
Sincèrement, il n'y a pas eu un petit moment difficile?
Si, un petit. La deuxième boucle, au bout de 15 bornes, j'ai mal aux jambes, mais j'attends que ça se termine. Hein. Mais bon, je suis venue pour ça donc.
Voilà, c'est bien. Donc c'est la grosse satisfaction quoi.
Ouais, super satisfaction. Ouais.
Bon, bah, c'est très
génial.
Bien. Bravo en tout cas.
Merci.
Voilà pour ces interviews donc concernant donc le Téléthon. Alors on avait commencé en chanson, on va finir en chanson, Philippe, on va finir par l'avoir. Chanteur et comédien de la troupe, hein, grand amoureux du sport, donc c'est pour ça que on lui a laissé un petit créneau dans cette émission de sport. Allez, on y va, Philippe.
Alors Philippe, cette soirée pour le Téléthon.
Oui, ben c'était très agréable, je pense que les gens étaient contents. Simon Violent également, c'était le principal, de récolter de l'argent, que les gens soient heureux. Et puis voilà, d'oublier un peu les problèmes et de voir un peu d'espoir dans cette salle. Il y en avait, je crois que ça, c'était un bon échange.
C'est vrai que beaucoup ont passé une bonne soirée, on a même entendu dire que finalement il n'y avait pas besoin d'aller sur Paris pour passer une belle soirée.
Ça c'est certain, quand les Parisiens cesseront de se croire pour des Parisiens, ça sera très bien. Il y a des très belles choses ailleurs, à Bonnel, à Bullion, et puis dans d'autres villes de France. Il n'y a pas besoin d'aller à Paris-Centre pour s'amuser, puis pour voir des belles choses, effectivement.
Alors, c'est des soirées particulières, fatalement, on y pense un peu plus que d'habitude, tout quand on est sur scène.
Oui. Bah oui, parce que si vous voulez, quand on se produit, quand on chante pour une cause comme celle-là, qui est importante, qui est belle, ben on a envie de donner le maximum, d'apporter le maximum aux gens, de l'espoir, encore une fois, et puis de faire plaisir, parce qu'il peut y avoir aussi des gens concernés, il y en avait, par ce drame. Et ben, notre rôle, nous, les artistes, c'est d'essayer de transformer un petit peu tout ça et de faire sourire et faire chanter. Voilà.
En tout cas, chapeau, parce qu'on vous a senti très très complice, hein, ce qui n'était pas forcément évident.
C'est-à-dire qu'on a répété tous pas mal quand même, et puis c'est vrai que devant l'enjeu, on se sent soudés. On se serre les coudes, quoi. C'est normal, je crois.
Alors il y avait de la chanson, il y avait aussi un peu de théâtre. Hein.
Oui, enfin de.
Oui, quand même, par scène, tout ça et tout, c'est marrant.
Oui. Bah, c'est ça qu'on a essayé de faire. C'est pas uniquement de la chanson, c'est faire aussi des sketchs. Mais ça pourrait venir, des sketchs. Mais oui, effectivement, des petites scénettes illustrées par les chansons pour alterner les moments de pure émotion et les moments où les gens peuvent se détendre et rire vraiment.
Ouais. Qui a choisi les répertoires?
Ah, c'est Marc.
C'est Marc.
C'est Marc et Chantal, je suppose. Mais Marc, oui, qui a choisi les chansons de la deuxième partie, mais tout à fait.
Bon. Très bien, Philippe, on peut vous voir où dans la région les semaines prochaines?
Vous pouvez venir nous voir à Bonnel le week-end prochain dans la pièce qui s'appelle Jour de solde. Et puis, quant à moi, au mois de mars, à Cernay-la-Ville.
D'accord.
Voilà.
Okay. Très bien, merci en tout cas.
Merci à vous, bonne soirée.
Voilà, ça il faut rappeler que c'était un beau spectacle hein, qui avait été organisé donc en amont, c'est-à-dire donc le 12 novembre avant donc le grand week-end de Téléthon. Simon, voilà, un petit merci en tout cas pour tous ces bénévoles qui se sont investis.
Tous les bénévoles évidemment. Évidemment, le sport a été la priorité souvent dans le Téléthon. Et je remercie aussi RVE d'être venu couvrir les événements.
Là, c'est notre boulot, on est là pour
c'est
ça.
Vraiment voilà. Sympa.
Allez, merci. La pub, et ensuite, on va reprendre la rétro. Je sais qu'on a eu une petite coupure d'émetteur, donc on va reprendre ça assez facilement. On va se réadapter. Allez, on y va.
Artisans, chefs d'entreprise, dirigeants de PME, Amplitude Service, récemment installé dans la vallée de Chevreuse, réalise tous vos travaux de secrétariat. Rédaction de documents, devis, factures, relance client, recouvrement. Vous souhaitez faire le point sur vos frais de structure, étudier l'opportunité de réduire vos coûts ou encore optimiser vos outils d'administration. Amplitude Service dispose des compétences nécessaires pour organiser votre gestion d'entreprise avec la possibilité d'intervention directement dans vos locaux. Spécialiste depuis plus de 15 ans dans la gestion des services administratifs et des moyens communs du second œuvre, Amplitude Service a créé des offres de services adaptées à vos besoins. Amplitude Service s'occupe aussi de vos événements d'entreprise. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 06 63 44 05 90 ou sur www.amplitude-service.fr et bénéficiez de la remise promotionnelle dans le cadre de l'ouverture de nos locaux de rue de Paris à Chevreuse. Pour vos travaux de secrétariat et d'organisation d'entreprise dans les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Eure-et-Loir, une seule solution, Amplitude Service.
Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffaut-électricité.com.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Votre restaurant, le Tibilig, vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Il sera ouvert le 31 décembre pour le réveillon.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
Voilà, donc ça y est, on a tous nos intervenants dans les studios. Alors on va recommencer parce qu'on a eu un petit problème d'émetteur ce matin pour la première partie de cette émission. On s'en excuse encore, hein, on a pu quand même donc tirer le bilan du Téléthon. On va revenir sur cette exceptionnelle année sportive Hervé Joly. Alors on va rappeler que naturellement l'événement hein, pour les sports olympiques individuels, ça a été les 42 médailles obtenues aux Jeux Olympiques de Rio par l'équipe de France. On en avait parlé avec Étienne Bonamy. 10 médailles d'or, 18 médailles d'argent et 14 médailles de bronze, Hervé, avec donc deux grands sportifs qui ont marqué ces Jeux. Phelps, 28 médailles, dont 23 en or à l'issue de ces Jeux, et Bolt, qui est devenu triple champion olympique pour la troisième fois consécutivement. Côté français, on a Teddy Riner qui est double champion olympique. On a aussi des sports comme la boxe qui ont marqué un gros renouveau, et puis d'autres qui ont été moins présents, comme la natation ou le cyclisme sur piste.
Oui, alors effectivement, il y a deux grands sportifs qui se dégagent. Et évidemment, Usain Bolt, qui remporte pour la troisième fois consécutive 100, 200 et 4 fois 100. Voilà, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Il y a déjà eu des doublés, mais là, c'est la première fois qu'un athlète remporte ces trois disciplines pour la troisième fois consécutive. Il a aussi la particularité de détenir les trois records du monde de la spécialité, le 100, 200, le 200 et 4 fois 100 également. Donc ça lui fait 9 titres olympiques, voilà, 9 titres olympiques qui sont très peu à avoir obtenus. En athlétisme, il y a eu Carl Lewis seulement. Et puis évidemment, il y en a, sauf bien sûr celui qui est un peu hors catégorie, c'est Paavo Nurmi, mais c'était une autre époque. En tout cas, Usain Bolt qui rentre définitivement dans l'histoire du sprint et de l'athlétisme, évidemment. En natation, on a eu un peu la même chose, toute proportion gardée, mais avec Michael Phelps. On l'avait annoncé sur l'américain, un peu sur la pente descendante à Rio. Bah, il repart quand même avec 5 médailles d'or, dont 2 en individuel avec le 204 nage, le 200 pape. plus les trois relais, et ça lui fait tout simplement, aussi incroyable que ça puisse paraître, 23 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 23 fois champion olympique. Voilà, je pense que ça se passe de tout commentaire, réparti sur 4 Olympiques.
Ouais, c'est ça, ça aussi, c'est ça.
Ça veut dire qu'il est, il est au niveau depuis plus de 16 ans maintenant, et ça aussi, c'est une sacrée,
quelque chose les phrases que de l'homme, c'est un immense champion.
Oui, oui, oui. Ah. Non, mais bon, après, c'est, voilà, sa vie privée, c'est autre chose, mais en tout cas, en tant que champion, on peut, voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire sur son palmarès. Hein, il suffit de regarder les chiffres et ça suffit également à lui-même. Alors donc je voulais revenir aussi sur les performances des Français dans différents sports. Alors puisqu'on était sur l'athlétisme avec Usain Bolt, on va rappeler quand même les quelques médailles françaises avec notamment Mélina Robert-Michon, médaille d'argent au disque. Kevin Mayer, extraordinaire médaille d'argent au décathlon. Première fois depuis plus de 60 ans qu'un décathlonien français monte sur le podium, il explose même le record de France de plus de 300 points. On a eu des médailles un peu surprises, quelqu'un qu'on annonce depuis très longtemps mais qui n'était pas très en forme cette année, qui repart avec le bronze, c'est Christophe Lemaître sur le 200 mètres.
Oui.
Dimitri Bascou, c'est un peu lui la médaille surprise sur le 110 mètres haies. Et puis Meyedine Mekissi qui récupère une médaille de bronze. Voilà. Alors certaines mauvaises langues diront que ouais c'est grâce au règlement, sauf que
oh, il est toujours présent oublier, quand même dans les grands voilà, rendez-vous.
Il faut
hein,
pas oublier que deux ans avant il avait été puni par le règlement, donc là il l'a utilisé à son avantage, on va dire. C'est un peu voilà. Et puis c'est ça tout simplement sa troisième médaille olympique.
Toujours présent dans les grands rendez-vous.
Des
toujours.
Français qui ont obtenu trois médailles olympiques sur trois Olympiades, il y en a pas eu 50 avant lui, il y en a eu qu'un et pas n'importe lequel, c'était Alain Mimoun. Puisque Perret qui avait obtenu trois médailles, mais elle sur deux Olympiades. La petite déception de l'équipe de France d'athlétisme, toute relative, c'est évidemment Renaud Lavillény, puisqu'on l'annonçait archi favori et il repart avec une médaille d'argent.
Comme dire. Très souvent.
Voilà.
Les oui, favoris ratent les jeux au niveau de la perche.
Alors il y a deux façons de l'analyser. C'est vrai qu'il a fait une toute petite erreur.
Enfin, rate les jeux.
Mais bon, personne est infaillible. Mmh. Et puis surtout, il a eu en face de lui Bras da Silva, le Brésilien, surmotivé chez lui, qui a réussi le concours de sa vie. Et puis je pense que, même si c'est pas une excuse, hein, mais je pense que, on va dire, le peu de fair play du public brésilien, ça a un petit peu peut-être déstabilisé Lavillény, qui n'était pas habitué à ça, même s'il n'y a rien à retirer à la performance de da Silva. Pour la natation, donc on a parlé de Michael Phelps, il y a eu d'autres grands champions hein, dont on parle peu, notamment chez les femmes.
Faut pas les oublier les femmes.
On va pas rappeler également Cathy Ledecky, l'américaine qui a 19 ans, repart une nouvelle fois avec 4 médailles d'or. Voilà, elle en est à 13 records du monde, hein, elle a seulement 19 ans, on va le rappeler. Kathleen Kaochku aussi, la hongroise, qui repart avec 3 médailles d'or également. Et puis on va rappeler les performances des Français. Alors il y a, on va dire, une médaille qu'on attendait énormément, puisque les Français étaient invaincus depuis 2012 sur le relais 4x100 mètres nage libre. Pour la première fois, ils sont inclinés. Ils sont pas inclinés non plus devant n'importe qui, devant les Américains, hein, avec notamment Michael Phelps dans l'équipe. Déjà, ça, voilà. Mais on va leur tirer un grand coup de chapeau, parce que ça s'est joué à quelques centièmes de seconde. Et c'est une très belle médaille d'argent quand même obtenue par Mehdi Metella, Florent Manodou, Fabien Gillot et Jérémy Stravius. Manodou qui termine également, qui remporte sa troisième médaille olympique avec deux médailles d'argent également, deuxième du 50 mèches nage libre. Alors là, ça a été un peu la déception pour lui, parce qu'il a perdu cette médaille, il a manqué cette médaille d'or sur le 50 libre pour un centième de seconde. Un centième de seconde, c'est rien du tout, hein, voilà. Et là, ça a été un peu l'élément déclencheur, où il a très mal digéré cette défaite et où il a décidé cette année de faire un peu l'impasse sur la natation. Voilà, de s'orienter vers un autre sport, le handball, voilà. Mais en fait, il a pas souhaité en fait repartir sur une année de préparation spécifique en natation. Et je pense que voilà, il faut dans la tête pour l'instant, il a du mal à digérer l'événement. En natation, il y a une autre médaille dont on a très peu parlé, c'est Marc-Antoine Olivier sur le 10 km en eau libre, médaille de bronze, juste après le lendemain de la disqualification de sa compagne Aurélie Muller.
On se rappelle de ces images.
Et à qui on a retiré la médaille d'or de façon discutable, mais peu importe. Voilà. Ce qui est curieux, c'est que celle qui l'a récupérée à la place, juste derrière elle, c'est une Brésilienne au Brésil. On peut se poser aussi des questions. Mais en tout cas, voilà, ça a été la conclusion pour la natation française, la nage en eau libre.
Oui, alors Hervé, certains sports donc ont répondu présent, on l'a dit, comme la boxe, d'autres, ça a été plus décevant, comme le cyclisme sur piste.
Oui, alors, le cyclisme sur piste, je vais laisser mon ami Olivier en parler. Hein, juste,
on
va
parler. C'est prévu dans la rubrique vélo, si on veut.
Voilà, on va parler peut-être de la boxe. Oui. La boxe, bah, une année exceptionnelle hein, pour les boxeurs français. On va le rappeler, hein, parce que les boxeurs français qui ramènent, qui n'ont jamais ramené autant de médailles des Jeux Olympiques. On va rappeler notamment Tony Yoka qui remporte la médaille d'or en lourd. Estelle Mosley également. Donc le couple de l'année pour beaucoup de médias là, où ils ont été récompensés ces dernières semaines sur beaucoup de médias pour leur performance et puis c'est vrai que la boxe cette année elle a jamais autant marqué la boxe française réussi autant de performances aux Jeux Olympiques. Et puis je voudrais surtout tirer un grand coup de chapeau à la boxe féminine, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir les boxeuses aux Jeux Olympiques, et là la boxe féminine nous ramène plusieurs médailles hein, sur ces jeux-là, donc un grand coup de chapeau.
Ouais. Ça a donné une autre image hein, de cette discipline en
plus. Oui,
hein.
tout à fait. Et puis ça a cassé aussi un peu l'image, parce qu'on avait toujours un peu pas l'habitude de faire passer les boxeurs, voilà.
Oui, avec des personnes qui font des belles études. Hein.
Voilà, on va rappeler notamment qu'il y a une boxeuse française qui a fait Sciences Po cette année. Hein, c'est pas non plus. C'est pas forcément des gens comme on aurait pu essayer de le faire croire depuis des années. Il y a des gens aussi qui sont très doués dans d'autres domaines que leur sport, voilà. Le cyclisme sur piste, alors là, ça a été un petit peu plus compliqué. Olivier, si tu veux en dire un mot.
Oui, bah, c'était un problème depuis 2-3 ans de nos fédérations qui sont un peu perdues dans le style d'entraîneur. On a changé 3 entraîneurs en 3 ans. Donc une distorsion complètement avec les sportifs et les entraîneurs. Donc plus avec une équipe qui était un peu vieillissante. Donc c'est pour ça l'homogénéité ne s'est pas faite du tout. Et puis on a eu le résultat qu'on a eu. Maintenant bon, on va essayer de rebondir sur une nouvelle génération et surtout sur la poursuite maintenant qui revient. Et voilà, pour les prochaines générations, les prochaines Olympiades peut-être encore un peu juste. Au moins pour la poursuite, je pense qu'ils seront présents. Pour la vitesse, on fera qu'on attende encore 7-8 ans, mais voilà, c'est enclenché un nouveau système. Mais bon, voilà, c'est les fédérations qui sont complètement perdues en cherchant un entraîneur australien, en payant une fortune qui n'est pas du tout dans le système français. Voilà, c'est complètement contre les entraîneurs qu'on avait en France. On avait quand même un Florian Rousseau qui était présent, qui était volontaire, mais bon, la fédération préférait choisir un étranger. Voilà, bon, ils ont récolté ce qu'on a semé. Voilà.
En tout cas, Olivier, on a eu l'occasion de suivre les championnats d'Europe, et on a vu quand même un renouveau, une équipe qui revient, qui se reconstruit. En plus, qui est sympathique.
Très, très, très sympathique, et puis voilà, il fait un renouveau, il faut repartir sur les bonnes bases, et puis je pense qu'on a des jeunes qui arrivent, là, même en Ile-de-France, on a des jeunes de la génération derrière les Baugers, qui, je pense, des 3-4, dans peut-être 4 ans, ça va être encore un peu juste, mais ils vont être là, ils sont des juniors, et je pense qu'ils vont sortir. Mais après, il faudra essayer de combattre les Anglais qui vont être assez compliqués.
Alors Hervé, je voulais simplement dire qu'après chaque Jeux Olympiques, il y a des sportifs qui tirent leur révérence. Hein, donc c'est le cas de Yannick Agnel en natation, de Gladys Epang au taekwondo, de Sarah Ouramoun en boxe notamment.
Oui, évidemment, trois grands champions qui s'en vont. On va rappeler tout ce que notamment Yannick Agnel a rapporté à la natation française. Hein. Plusieurs titres mondiaux, des records également l'appel, un immense palmarès, mais je crois que là il en a marre tout simplement, hein, il l'a dit lui-même. Bon, on va rappeler encore une fois pour ceux qui connaissent peu la natation, c'est un sport extrêmement exigeant. Et puis je peux vous dire que aller passer 5 heures, 6 heures dans l'eau tous les jours, aligner des longueurs de bassin, il faut être sacrément motivé, hein, voilà, à longueur d'année, voilà. Il faut être sacrément motivé, donc on peut comprendre qu'il soit un peu fatigué maintenant en fin de carrière.
Et puis un petit mot sur les Jeux Paralympiques aussi, où l'équipe de France a terminé 12e, donc au tableau des médailles, avec 28 médailles, 9 or, 5 argent et 14 bronzes. La Chine est première nation avec 238 médailles, dont 107 en or.
Oui, alors des très belles performances aussi pour les Paralympiques. Marie-Amélie Le Fur, évidemment, qu'on a vu partout. Une sportive qu'on connaît bien, qui est pas très loin d'ici aussi, c'est Nantéline Keïta, qui remporte également une très belle médaille d'or. Elle a été longtemps licenciée du côté de Saint-Quentin là-bas. On a eu des très belles performances dans les Jeux Paralympiques, mais bien au-delà de l'athlétisme, notamment en aviron ou dans beaucoup d'autres sports. C'est vrai que l'équipe de France Paralympique a réussi une très belle Olympiade, mais si, si, quand même.
On est en dessous des médailles quand même, on partait avec 50 médailles quand même, un objectif, on est quand même largement en dessous.
C'est beaucoup, chez les Paralympiques, c'est toujours beaucoup plus aléatoire, il y a toujours des surprises ou des athlètes qu'on connaît pas qui arrivent. C'est vrai que la Chine a été particulièrement impressionnante avec son armada, là. Notamment beaucoup d'athlètes dont on n'avait jamais entendu parler, mais voilà, peut-être qu'il y a une politique dans ce sens-là là-bas, ça je sais pas, au niveau des Jeux Paralympiques, En tout cas, c'est vrai qu'ils ont un peu écrasé les Jeux paralympiques.
Voilà, juste 30 secondes pour dire que 2017, qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y aura des championnats du monde de natation, des championnats du monde d'athlétisme dans toutes les disciplines. Il faut se relancer, c'est souvent difficile.
Oui, bah, c'est toujours le même problème après une année Olympiade, c'est une année creuse, voilà. Mmh. Alors il y a deux optiques, il y a des athlètes qui préfèrent faire l'impasse pendant cette année creuse et d'autres qui préfèrent se continuer à se préparer pour les futurs objectifs à venir.
Très bien. Eh bien, on va poursuivre donc avec les disciplines d'hiver et puis on va s'adapter, on va faire une rétro de tous les très grands événements au Carillon auparavant à 11h. Allez, on y va.